Jacqueline Blais, l'Association d'éducation des Canadiens français du Manitoba, dont on parle aujourd'hui, ce que tu appelles le secret de Polichinelle, parce qu'on la connaît. Oui. On pense qu'on la connaît, cette histoire-là, mais à chaque fois que tu la racontes, on découvre du nouveau. 52 ans d'existence. Avant de parler de la fin, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on devrait retenir de ce qu'a fait cette association pour le fait français?
Pour le fait français, elle a gardé le fait français vivant. Elle a montré l'exemple de la résilience. Elle a aussi montré à mentir.
À mentir.
À mentir.
Mm-hmm. En français.
Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que simplement, ça a été confirmé par je ne sais combien de personnes que j'ai interviewées. On disait aux enfants que quand l'inspecteur gouvernemental rentrait en classe, il fallait parler anglais, ce qui ne se produisait pas. Donc, on leur enseignait à mentir, ce qu'ils présentaient. D'un seul coup, ils savaient dire « yes sir, no sir ». Et puis, les livres français disparaissaient, on les cachait. Et on sortait des livres en anglais et on parlait en anglais. Donc, on a gardé notre culture, si tu veux, en mentant.
Un pieux mensonge.
C'est un pieux mensonge. Un jour, j'ai demandé à une religieuse, j'ai dit « mais mentir, c'est un péché capital, non ?» Et vous avez enseigné. Donc, vous avez enseigné un péché capital, vous l'avez accepté. Et c'est misère, elle a dit, tu sais, il y a bien des choses qu'on dit des fois.
Mais disons qu'ils ont évité de dire la vérité.
Ils ont évité de dire la vérité. Et comment est-ce qu'ils faisaient ça? Il y avait toutes sortes de techniques qui étaient vraiment intéressantes. Un jour, j'ai eu dans mes classes un homme de Notre-Dame de Lourdes. Et quand il était enfant, il était responsable de savoir si l'inspecteur arrivait. Et on sait que tous les petits garçons connaissent toutes les voitures des villages. Et il était responsable de regarder par la fenêtre. Et si une voiture qui venait, qu'il ne connaissait pas, à ce moment-là...
Alerte rouge.
À l'institutrice. L'institutrice l'envoyait au bureau de la direction. Là, la direction donnait une poignée de crayons rouges. Et ça, c'est une vraie. Hein. Donnait une poignée de crayons rouges à l'enfant. Et l'enfant allait dans chaque classe distribuer un crayon rouge. Et ça, c'était le signal. Attention, inspecteur anglophone. Okay. Et là... Et quelquefois, le curé le savait, le voyait, invitait tout de suite l'inspecteur à prendre un café.
Pour donner le temps à la classe de se préparer. C'est bon.
Il y avait toutes sortes de... Vraiment, là, les techniques de résistance, c'était ça. Alors, c'était un secret qui était connu de tout le monde, qui était même dans le journal. Avec le nom des gagnants du concours de français. Comment est-ce que vous pouvez avoir un concours de français alors qu'on est supposé de ne pas l'enseigner?
Oui, mais les inspecteurs ne parlaient pas français, ils ne lisaient pas La Liberté. Ouais. Ils ne savaient pas.
Il y en avait quelques-uns qui étaient retors un peu. Et alors, si l'inspecteur prenait un délit flagrant d'enseigner en français, parce qu'il voyait bien des fois que les petites institutrices ne savaient pas mentir, alors il y avait une lettre qui partait. Mais l'institutrice prévenait l'association tout de suite. Et à ce moment-là, il y avait des instructions bien précises, c'est qu'on envoyait une lettre au sous-ministre qui s'appelait Robert Fletcher, qui a un édifice lui-même, là, l'avenue sur l'avenue Portage. Et là, le président de l'association, souvent M. Marion, qui était commerçant de Norwood, allait voir Fletcher. Et Fletcher lui disait, bon, d'accord, je m'en occupe, tapez sur les doigts de l'institutrice, et dis-lui de ne pas recommencer.
Alors, ils avaient un poids politique et ils jouaient ce rôle-là aussi, là, la relation avec le gouvernement.
Et pourquoi? Parce que, finalement, le gouvernement n'avait pas de résistance de la part des francophones. L'association savait où étaient ses écoles, s'assurait que ses enseignantes avaient des diplômes. Ce n'était pas le cas de tout le monde, ça. Les autres minorités n'étaient pas comme ça. Et surtout, l'association a obéissé, c'est-à-dire que les enfants allaient à l'école. Et ça, c'était important.
Ça, c'est le travail sur le terrain qui se faisait.
Oui,
là.
Oui. Et si les routes n'étaient pas praticables, les commissaires le disaient aussi, puis là, il y avait des représentations faites auprès du gouvernement. Mais il y avait aussi le fait que Fletcher, lui-même, Robert Fletcher, était contre l'abolition des écoles françaises. Pour lui, c'était une erreur. Il estimait que sur le plan constitutionnel, ils avaient le droit d'avoir des écoles. Et il l'a dit d'ailleurs à à la Société historique du Manitoba. À un moment donné, il a donné une conférence quand il a pris sa retraite. Et il a dit, j'aurais pensé qu'on aurait pu laisser les écoles françaises catholiques fonctionner. Et ça n'a pas été le cas. Alors, dans le fond, les francophones ont payé le prix d'être mélangés dans un gros groupe de minoritaires, c'est-à-dire d'immigrants qui venaient de Pologne, qui venaient d'Allemagne, d'Ukraine, de Russie, des Mennonites aussi, des Utérites. Toutes ces écoles-là, d'ailleurs, les parents appelaient les enseignants de cette époque-là des dudes, surtout chez les Polonais. Pour eux, c'était une situation sociale élevée que d'enseigner. Alors, ils arrivaient en costume complet, en campagne, ça faisait
bonne impression.
Absolument.
Et impressionnant.
Mais ils n'avaient pas de livres non plus.
Là, on revient à 1916 avec l'abolition de l'enseignement dans les écoles autres que l'anglais. C'est ça qu'on oublie. Oui. C'est pas juste le français, là, c'est ça que tu nous dis. Oui. On ne pouvait pas enseigner aucune langue.
Non, ça faisait partie du...
Et la plupart des autres groupes culturels ont décidé de s'y plier, d'ailleurs.
Oui, de s'y plier. Il n'y a pas eu de choix. Les Mennonites sont partis. Ils sont allés voir, à un moment donné, en 1916, ils sont allés voir les Canadiens français catholiques et ils leur ont demandé « Voulez-vous poursuivre la province devant les tribunaux avec nous ?» Et là, les Canadiens français ont dit « Non, on ne prend pas ce risque-là. On l'a déjà pris. On est allé deux fois devant le conseil privé à Londres. On ne retourne pas devant les tribunaux. C'est la guerre. On ne fait pas ça. » Alors, les Mennonites sont partis en Amérique du Sud. Ils sont revenus depuis 2006. Ils sont revenus ici. On les voit un petit peu partout dans la communauté anglophone. Ils se sont réinstallés ici parce qu'ils peuvent le faire, alors que la situation en Amérique du Sud n'est pas bonne. Il y a eu récession et tout ça. Et les jeunes sont revenus parce qu'il y a un héritage Mennonite qu'eux n'ont pas pu conserver comme ils auraient voulu, comme les francophones n'ont pu le faire. Ouais.
Mais pour les Polonais, les Ukrainiens, par exemple, ça se faisait à la maison. C'est tout.
Oui.
Si on voulait le faire à la maison.
Si on pouvait le faire aussi, parce qu'il fallait que les parents sachent lire et écrire. Mm-hmm. Et ça, c'est une autre paire de manches aussi, à cette époque-là. Ouais. Surtout quand on considère que les enfants travaillaient dès l'âge de 10, 12 ans, 13 ans. Beaucoup étaient responsables des frères et sœurs et de leurs parents aussi. C'était la guerre.